une petite introduction que j'avais prévue avant de laisser la parole au rabbin Haddad. Une citation d'abord de Ésaïe 45 au verset 15. Effectivement, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur.
Il faut écarter le contresens courant de considérer les paraboles comme un message simplifié du Christ. La parabole est difficile, en tout cas inattendue. Son vrai sens est réservé non à l'intellectuel, au savant, mais au croyant. Elle dissimule plus qu'elle ne révèle. Plus exactement, elle dissimule la parole de Dieu pour mieux la révéler ensuite. D'où le fait que nous butions encore sur des difficultés, qu'est-ce qui n'a pas de problème avec l'économe dit injuste, le fait qu'il existe des contresens ecclésiastiques, comme la parabole de la brebis perdue, et l'incompréhension fréquente des auditeurs de Jésus, à son époque comme à la nôtre. Le genre parabole, vous allez le voir, n'a pas été inventé par Jésus. C'est un genre littéraire que l'on trouve dans le Premier Testament. Plus souvent énigme qu'illustration pour susciter l'intérêt de l'auditeur. Pour les connaisseurs, je fais allusion au chapitre 9 du livre des Juges et la parabole des arbres, et puis au chapitre 5 d'Isaïe dont nous allons parler tout à l'heure. La plupart du temps, les paraboles de Jésus entendent nous révéler des vérités dernières sur Dieu, sur son royaume et du même coup sur l'homme. Et pour les révéler, il a été contraint de les transmettre habillés en paroles. On peut imaginer qu'il a utilisé les paraboles pour nous amener à comprendre que Dieu, justement, n'était pas le Dieu des philosophes et des savants, mais un Dieu semblable aux hommes. Il éloigne l'image que l'on pourrait avoir d'impassibilité, d'omnipotence, d'omniscience que les livres de philosophie cherchent à définir. Mais le Dieu qui vient parmi les hommes, un Dieu vivant, qui s'approche des hommes, un Dieu qui, dans les paraboles on le verra, est un semeur, un père, un propriétaire, un époux. Il faut comprendre également que s'il y a ressemblance, il y a aussi distance. Si vous les hommes faites ceci, Dieu, à plus forte raison, le fera aussi, et bien mieux. Il y a souvent confusion dans les paraboles entre Dieu et la personne de Jésus. Dans les paraboles, en particulier dans Luc, au chapitre 15, le propriétaire des brebis ou des drachmes ou le père désigne Dieu, mais sont liés à l'œuvre de Jésus. Pour les chrétiens, les paraboles du Christ sont étroitement liées à son incarnation. L'image est chargée de beaucoup plus de sens possible que la phrase habituelle qui n'est univoque, ce qui explique les interprétations diverses, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire leur richesse. La parabole en dit toujours plus qu'elle n'en dit. Le pasteur Alphonse Maillot, dont je me suis beaucoup inspiré ce soir, dans son introduction aux paraboles, nous demandait de nous poser la question « Qu'est-ce qui me choque ?» Qu'est-ce qui devait choquer les auditeurs de Jésus? Nous verrons que Isaïe 5 et Matthieu 21 ont une tonalité différente, mais nous pouvons entendre la fin de la citation d'Ésaïe faite au début, « Le Dieu qui se cache nous sauve ». C'est un message d'espérance. En dernier ressort, ce Dieu que nous ne pouvons saisir qu'imparfaitement nous sauve. J'avais pensé m'arrêter là et laisser la place à la lecture juive des paraboles, ce que je suis incapable de faire. Je vais déjà avoir du mal à vous faire une lecture chrétienne des paraboles. Donc ça nécessite un salut. Je suis gêné de me trouver devant vous ce soir. Je suis plus à mon aise quand je suis assis à côté de vous. Une demande d'excuses auprès de nos amis juifs qui vont entendre ce soir, malgré tous les efforts que j'ai faits, quelque chose qui est une lecture que je ne peux pas me changer, qui est quand même assez chrétienne, même si je me réfère beaucoup à ce qu'on appelle le Premier Testament. Et puis, bien sûr, je suis incapable de remplacer le rabbin Philippe Haddad, que nous connaissons bien et que nous admirons et que nous réjouissions d'accueillir ce soir. Alors d'abord, pour parler des paraboles, je vous propose de lire successivement deux paraboles, une dans le Premier Testament, donc c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, les versets 1 à 7. Ça s'appelle la vigne du Seigneur. Laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants? Maintenant, laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni sarclée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne me laissent plus tomber de pluie sur elle. Or, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils espéraient l'équité, et voici le crime, la justice, et voici le cri des victimes. Et donc, en parallèle, je vous propose la lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 33 à 44. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses esclaves chez les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses esclaves, l'un ils le battirent, un autre ils le tuèrent, un autre encore ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent « C'est l'héritier. Venons, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. » Et ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, comment traitera-t-il donc ces vignerons? Ils lui répondirent « C'est misérable ». Il les fera disparaître misérablement et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits en leur temps. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Cela est venu du Seigneur, c'est une chose étonnante à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le règne de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. J'arrête là cette lecture. D'abord, Jésus parle en parabole comme le successeur des prophètes, et même comme le dernier des prophètes, celui qui parle en dernier, le prophète qui dit une parole définitive sur Dieu. La parabole de la vigne et des vignerons permet d'étudier justement la relation entre l'histoire du salut et les paraboles, et particulièrement dans l'évangile de Matthieu, puisqu'on a choisi ce soir cet exemple. Dans Matthieu, justement, les paraboles essaient de nous dire ce que Dieu a fait, et aussi la manière dont les hommes ont répondu. Certaines, celles du semeur, le grain de sénevé, vont de l'incarnation jusqu'à la parousie. Mais d'autres, comme celle du bon grain et de l'ivraie, embrasse toute l'histoire depuis la création jusqu'au jugement dernier. On va s'arrêter à celle des vignerons qui décrit l'histoire d'Israël d'Abraham au Golgotha. Et les versets 41 et 43 décrivent même l'entrée des païens dans le royaume. Par petites touches, peu à peu, Jésus veut donner une fresque de l'humanité, révéler un plan divin, les réponses que les hommes ont données et le but vers lequel tout converge. C'est là qu'il faut noter ce qui nous intéresse ce soir. Pour révéler ce plan, cette histoire de notre salut, il a voulu passer par l'intermédiaire des paraboles. Ce sont des histoires d'hommes et de femmes. Ce sont elles, des histoires de ce monde, qui rendent le mieux compte de cette histoire du salut. Matthieu est l'évangéliste le plus enraciné dans le Premier Testament, et il est bien au fait que déjà le Premier Testament rompait lui-même sans cesse avec ce qui avait précédé. Mais dans sa vision du passé et de l'avenir, il est pleinement dans le présent. Dans l'Évangile, Jésus est donc un prédicateur du salut. La vision d'hier et de demain est là pour appeler une décision aujourd'hui. Nous avons entendu la parabole d'Ésaïe, celle de Matthieu. Il y a des différences. Dans Ésaïe, le coupable, c'était la vigne, c'est-à-dire tout le peuple. Ici, dans Matthieu, Jésus incrimine les vignerons, c'est-à-dire les prêtres, les pharisiens, et qui ne se sont pas trompés, puisque j'ai arrêté la lecture avant le verset 45, qui disait « Après avoir entendu ces paroles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. » Pour être juste, il faut noter que le glissement s'était déjà fait d'Ésaïe à Ézéchiel en passant par Jérémie. Alors, dans Jérémie, je vous lis un petit passage de Jérémie 14, les versets 13 à 16. Je répondis, « Ah, Seigneur Dieu, les prophètes leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai en ce lieu une paix véritable. » Le Seigneur me dit, « C'est le mensonge que les prophètes annoncent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, de la divination, de l'idolâtrie et des tromperies de leur cœur qu'ils font les prophètes pour vous. » On glisse à Ézéchiel, au chapitre 34, les versets 1 à 10, et c'est plus tout à fait les mêmes qui sont accusés. « La parole du Seigneur me parvint. Humain, parle en prophète et dis-leur, ô berger, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui se repaissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître le troupeau? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec de la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses, vous ne faites pas paître le troupeau, vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles, soigner celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rudesse. Elles se sont dispersées faute de bergers, elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages, elles sont dispersées. Mon troupeau erre dans les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur tout le pays, personne n'en prend soin, personne ne les cherche. À cause de cela, berger, écoutez la parole du Seigneur, par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, à coup sûr, parce que mon troupeau est livré au pillage et qu'il est devenu la proie de tous les animaux sauvages, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun soin de mon troupeau, à cause de cela, berger, écoutez la parole du Seigneur, je m'oppose aux bergers, je leur réclamerai mon troupeau, je ne laisserai plus paître mon troupeau, pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes. Arracherai mon troupeau de leur bouche, et ils ne seront plus une proie pour eux. » Ézéchiel, lui, accuse donc nommément les mauvais bergers, les chefs religieux. Faut-il en conclure que le peuple est innocenté? Oui, au XIXe siècle, certains auteurs écrivaient « Le peuple n'est jamais coupable ». On peut penser à la lecture des évangiles que Jésus ne va pas jusque-là. Il s'oppose à la notion de responsabilité collective. Ne dit-il pas qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les coupables? Ici, je pense qu'il pense au peuple. La distinction qu'il opère n'est pas entre un peuple innocent et des autorités coupables, mais entre un peuple plus ou moins conscient de sa misère et des autorités qui ne sont pas du tout. Entre un peuple accusé et écrasé et des autorités qui se débarrassent de leurs fautes en les imputant au peuple. C'est cela le mauvais berger, celui qui se justifie sur le dos de son troupeau. Être berger, c'est être responsable. Jésus tient pour coupable, plus coupable, ceux qui plaident leur irresponsabilité. On peut voir au moins 4 thèmes dans cette parabole. Premier thème, Dieu fait tout. Dieu fait tout, mais non seulement il le fait bien, on a vu ça au verset 33, mais il le fait pour que tout soit facile. C'est un travail fini, soigné, que le maître remet aux paysans. Deuxième thème, c'est sa vigne. C'est ce que le Seigneur aime par-dessus tout. Dieu, dans l'histoire du salut, fait pleinement confiance aux hommes. Dans l'Alliance, il leur donne, finalement, ce qu'il a de plus cher. Dans cette parabole, celle de Matthieu, il va même leur livrer en pleine confiance le Fils. L'incarnation, homme et alliance tout à la fois. Troisième thème, le maître part. Il s'en va au loin, à l'étranger. D'habitude, ce départ dépeint celui de Jésus, l'ascension. Mais on voit que déjà dans le Premier Testament, Dieu se conduit comme Dieu va se conduire. Déjà, après avoir tout donné, il s'absentait. Le Dieu de la confiance est aussi celui de l'absence. C'est ici qu'il faut bien comprendre cette absence. Elle signifie que Dieu nous prend au sérieux, nous laisse le champ libre. Il s'efface. Mais ce n'est ni une désertion, ni un abandon. Il donne vraiment sa place. C'est une marque d'amour. Le Dieu des philosophes et des savants s'en va, et finalement il ne reste parmi nous que le Dieu confiant de la révélation. C'est le Dieu qui ne veut plus agir que par l'amour qu'il porte aux hommes. Quatrième thème, les hommes se refusent à jouer le jeu de l'alliance. L'être humain ne consent pas à aimer celui qu'il aime. Il ne consent pas à écouter ceux que Dieu lui envoie. Il ne consent pas à rendre la confiance qui lui est faite. En fait, il veut refermer la main sur la grâce. Il veut posséder ce qu'il ne peut que recevoir. Or, un amour ne se possède jamais. Quiconque referme la main sur lui le tue. Et j'ajouterai « se tue aussi ». L'amour ne se tient que la main ouverte. Il ne se garde qu'en donnant. Mais l'homme, nous est-il dit, veut garder sans donner. C'est l'histoire d'Israël. Israël veut posséder l'alliance, la révélation, la grâce. Mais c'est surtout ici l'histoire de l'homme. L'homme veut posséder la création et peut-être la fera périr avec lui. Ceci amène fatalement les uns et les autres à vouloir s'emparer de celui-là même qui est amour et qui est le dernier gêneur, Dieu lui-même. Car Dieu vient rappeler à l'homme qu'il n'est pas propriétaire, qu'il ne peut être question de posséder, d'hériter, de détenir, de mériter, d'acheter et même de dérober. Alors, et ça c'est une vision chrétienne, on le tue, mais on plante sur le monde et sur l'humanité un signe définitif et indestructible de la propriété divine, la croix. Et c'est ici le lieu et le moment de se garder de faire une lecture antisémite de cette parabole. car les mains de l'Église, des Églises, sont aussi crispées que celles d'Israël. L'Église propriétaire du salut, dispensatrice de la grâce, avare et jalouse de la miséricorde, se croyant héritière des dons divins et des richesses terrestres, n'a rien à reprocher à Israël. Et les chrétiens, aux mains closes, au cœur fermé, ces propriétaires du bon droit, de la vraie morale, de la seule vérité, chrétiens enfermés dans leur bonne conscience d'héritiers par nature et par mérite des dons divins, sont également mis en cause dans cette parabole. Alors pour terminer, je dirais que il y a d'autres lectures possibles et tout aussi valables. C'est justement le projet et la force des paraboles. Mais il en échappe beaucoup aux simples lecteurs que nous sommes, aux maîtres aussi, ils le reconnaissent, et tout ça pour que cette parole reste vivante, insaisissable et disponible pour chacun qui la découvre à nouveau. Je vous remercie. Merci. On laisse une place aux questions sur les paraboles et le père Raymond Barthélémy et le pasteur Charlotte Gérard ont accepté de répondre aux questions en disant qu'ils seraient sûrement... C'est moi qui dis qu'ils seront, ils seront sûrement plus qualifiés.
Alors après cette réflexion qui semble bien difficile alors... Donc, bah, si c'est difficile aussi pour vous en tant que chrétien, moi je me disais, je vais peut-être comprendre des choses, je vais essayer au niveau du judaïsme de comprendre quelque chose. Oui, la vigne, oui, j'ai trouvé difficile la compréhension, pas parce que elle est claire dans ce que toi tu as dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, y a-t-il des questions et des réactions? Et des interventions. Ah oui. Jean-Albert. Bonsoir Jean-Albert. Je n'avais pas vu arriver. Je te laisse.
Je reviendrai vers la fin de ton intervention, Jean-Marc. Cette partie très importante sur l'alliance. Ce sentiment d'être propriétaire ou pas de l'Alliance. Et puis aussi d'être propriétaire de la dimension divine. Et nous sommes certainement amenés, tous, dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes, à partager cette Alliance. Parce que sur cette question, qui est le propriétaire de l'Alliance, c'est une question certainement fondamentale pour nous, dans le cadre des amitiés. Parce que cette alliance partagée que nous partageons avec nos amis juifs, moi je la déclinerais en plusieurs alliances qui ne s'opposent pas les unes aux autres. L'alliance est irrévocable, donc l'alliance d'Israël restera éternelle. Et puis ensuite il y a la nature de l'alliance des chrétiens. Moi je la vois en addition. Je pense qu'elle ne s'oppose pas, elle ne se diminue pas, elle ne se soustrait pas les unes par rapport aux autres. Et c'est pour ça que j'apprécie cette intervention, cette tentative d'en être, de posséder la parole, de posséder la vérité, de posséder l'interprétation, la vraie interprétation, de posséder presque le pouvoir du salut, de la rédemption, de la bénédiction, de la grâce. C'est notre piège à tous. D'avoir ce sentiment de devenir le propriétaire, et c'est pas une question de possession, et c'est pas facile de partager entre nous tous ces alliances. Voilà, c'est plus peut-être un commentaire qu'une question, mais je crois que c'est important quand même d'être sensible sur cet aspect. Personne n'a le monopole, personne n'a le monopole de la démarche, du chemin spirituel. Oui, c'est pas une réponse. Je...
J'ai abordé ça en quatrième parce que c'est le plus difficile, mais c'est le plus important. Et c'est vrai que nous ne sommes pas propriétaires de l'Alliance. Elle nous est donnée. Alors après, je suis incapable de vous dire si elle est partagée, si elle est ajoutée, si elle est... Voilà. Mais la certitude, effectivement, c'est que ce n'est pas aux dépens des autres et personne n'en est propriétaire, comme les vignerons de leur vigne.
Dans cette parabole, donc, il est question d'une vigne, et cette vigne, elle est censée produire du vin. Et à travers cette image de la vigne, il y a l'image de la fête. Et moi, je trouve que c'est déjà très significatif de ce que ça évoque comme joie partagée, comme voilà. Et donc, vous avez parlé de la responsabilité par rapport à la vigne et des vignerons et tout ça, mais cette image déjà de la vigne est déjà parlante d'un message de bonheur, de joie partagée, de fête, à laquelle sont invités tous les hommes de la terre, avec donc des invitants et des invités, des personnes qui ont soin de la vigne, mais pour y inviter de la part du Seigneur, de Dieu, tous les hommes de la terre. Voilà, donc je trouve que déjà cette image, simplement de la vigne, est déjà très éloquente.
Moi, j'avais en remarque quelque chose qui m'a choquée, mais c'est logique aussi. Je pense que les maîtres ou les sages ou les grands de ce monde, sans avoir le pouvoir, mais devraient avoir la sagesse, la capacité de bien nous enseigner, nous le peuple. Et là, je vois qu'il y a effectivement une grande critique, que ce soit par Isaïe, que ce soit là, au niveau de Jésus. Alors, on dirait que ça veut nous dire que ces grands, ces maîtres, qu'ils soient alors... là, on emploie les termes sadducéens, pharisiens, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'ils soient rabbins pour les juifs, qu'ils soient prêtres pour les uns, pasteurs pour les autres? C'est très sévère comme critique, c'est même très important. Alors j'en comprends la sévérité parce qu'effectivement, il est nécessaire que ces êtres soient très droits et pour que le peuple, entre guillemets, c'est-à-dire nous tous, nous recevions un enseignement sans possession, avec ouverture, sans qu'ils soient des gourous. Est-ce que c'est un peu cela que ça veut nous dire? Puis c'est très important dans les deux, que ce soit dans le Premier Testament ou dans les paraboles de Jésus. Qu'en penses-tu?
Je ne sais pas si le père Desroches ou le père Martigny ou Charlotte te répondent, mais mon idée c'est que tout nous est donné aux uns et aux autres, et comme dans la parabole des talents, une autre parabole, plus il nous est donné, plus il nous sera demandé. Et donc je pense que les bergers à qui Dieu confie son troupeau, les prêtres, les pasteurs, les peuples, tous les gens qui ont des responsabilités dans nos églises, ont une responsabilité particulière, non seulement vis-à-vis de leur joie, mais vis-à-vis de Dieu, ça me semble très sérieux. Et puis, par extension, et c'est un peu ce que voulait nous dire la parabole, c'est pour ça que ces paraboles parlent toujours d'hommes et de femmes dans leur vie de tous les jours. Je pense que, par extension, on peut étendre ça aux gens qui nous gouvernent et qu'ils ont une responsabilité particulière et qu'on peut leur demander aussi de prendre leur responsabilité pour nous.
Il y a eu une réaction. Ces paraboles, effectivement, ont été prononcées par Jésus et rapportées par un évangéliste. On aurait tendance, pour celle-là, par exemple, à dire qu'elles concernent les autres. En fait, elles s'adressent aujourd'hui à nous qui la lisons. Alors la question toute simple, c'est de dire, moi, dans cette parabole, où est-ce que je suis? Et je crois que c'est une question qu'on peut se poser dans la plupart des paraboles. Où est-ce que je suis là?
Alors, je crois que
crois qu'il faut se poser ça, chaque fois qu'on lit la Bible, on peut se poser ça, et tu seras d'accord avec moi, tout le temps, quand on lit Pierre et Jacques, et Pierre et Jean, et tu dis « je suis lequel », et en fait, c'est toujours nous, c'est Marthe et Marie, c'est encore nous. Et là, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est jamais fini de décortiquer une parabole, c'est que Dieu peut-être pas, mais on est les vignerons, et on est aussi les gens qui auraient pu boire le vin de la fête si tout avait été mené à son terme, puisque tout était prêt pour ça. La terre avait été préparée, la vigne avait été plantée, le puits avait été creusé. Donc, effectivement, je crois que quand on parle de ces paraboles qui raconte l'histoire du salut, donc le passé, qui annonce le but vers lequel tout converge, sans oublier le présent c'est nous, et donc qu'est-ce que cette histoire nous dit de nous aujourd'hui? Et d'ailleurs dans le quatrième thème, c'est sûr que je pensais beaucoup à ma femme qui est psychanalyste, quand on analyse un petit peu tous ces problèmes de l'amour qu'on veut garder, de la main qui est fermée, et en fait une main qui se ferme sur l'amour, ça le tue. Et ça nous tue aussi.
Merci. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la responsabilité des responsables, des religieux et des responsables politiques, mais il y a aussi la responsabilité de chacun de nous. Dans le judaïsme, La place de l'étude est extrêmement importante. Ce ne sont pas les maîtres qui étudient pour nous. Nous sommes invités à, dans l'humilité, mais nous sommes invités à étudier avec eux. Et nous sommes invités à faire preuve de vigilance, d'exigence, afin, je pense aux responsables politiques, et particulièrement en ce moment, invités à faire preuve de vigilance pour que les responsables politiques aient le souci du bien commun. Et quand il y a une récolte, que chacun puisse en profiter, pour reprendre le ce qu'a dit Thierry, que la joie elle soit partagée, c'est-à-dire que les raisins ne soient pas et restent pas entre les mains de quelques-uns. Et je voudrais revenir justement sur ce que tu as dit, parce que j'ai trouvé un écho, à savoir le Dieu qui s'absente. Pour moi, il y a une résonance de ce que tu nous as dit dans le concept kabbalistique du Tzimtzum. Le Dieu qui se retire, non pas pour nous abandonner à nous-mêmes, mais pour nous permettre de prendre toute notre place et d'exercer toute notre responsabilité. Et j'ai beaucoup aimé cette mise en garde contre la tentation de faire une lecture antisémite qu'on entend encore trop souvent. La lecture antisémite, d'une part, et aussi ici même. Cette volonté, en fait, de faire, cette tentation de faire une lecture qui conduirait encore à chercher à convertir nos amis juifs. Moi, je voudrais rappeler ce qu'a dit la pasteur Florence Taubman, présidente de l'Amitié judo-chrétienne quand elle était élue. J'ai besoin que les juifs soient juifs. Et ça, je pense que c'est extrêmement important.
Merci Norbert.
Gérard.
Oui, je voulais revenir à ce qui était ton point de départ, c'est-à-dire le fait qu'on trouve chez Isaïe, par exemple, déjà des paraboles. Et je voulais peut-être me demander si ça ne faussait pas un petit peu la perspective, si on veut comparer la parabole chez dans le judaïsme et la parabole peut-être dans le christianisme, dans la mesure où Isaïe, c'est la période prophétique, ce n'est donc pas tout à fait le judaïsme rabbinique. Et je me demande dans quelle mesure on peut, là c'est une vraie question, qu'on peut dissocier la parabole du contexte prophétique. Parce que dans le Talmud, on trouve des Meshalim, des paraboles. Pour le coup, les paraboles du Talmud, elles sont soumises au contexte rabbinique qui dit qu'un sage est supérieur au prophète. Donc dans le judaïsme, on dissocie, on découple maintenant complètement la parabole du contexte prophétique. Donc voilà, je voulais poser cette question, est-ce qu'on peut lire des paraboles évangéliques en dehors de ce contexte prophétique ou pas? Bon. Et puis, deuxième point, j'ai beaucoup aimé cette description qu'a eue de la parabole, cette définition qui était une transmission habillée. Et c'est là où je vais en venir aussi pour le deuxième point, peut-être un contraste encore avec le judaïsme, dans la mesure où on insiste beaucoup sur le sens littéral, l'interprétation littérale, le pshat, ce qu'on appelle pshat. Évidemment, pshat, ça veut dire simple, simplicité. C'est aussi le sens déshabillé. Donc, là aussi, peut-être un écart dans la lecture où le christianisme essaye d'habiller la transmission quand le judaïsme essaye de déshabiller le texte pour trouver le sens nu.
Merci.
Oui, je suis content que tu réagisses parce que justement, tu faisais partie des gens que je surveillais du coin de l'œil. Deux choses. Vraiment, alors merci parce que ton éclairage est bon et toute comparaison est biaisée. J'avais tout à fait le sentiment, en m'emparant d'Ésaïe, d'abord c'était une occasion de rapprocher le premier testament du second, tu vois bien, et j'ai bien insisté sur le fait que quand même les conclusions sont, l'histoire ressemble et finalement les conclusions sont sensiblement différentes, surtout après l'exégèse qu'on prend faire nous les chrétiens. Par contre, pour le pshat, je suis d'accord, je fréquente même des églises qui sont extrêmement près du pshat, de la lecture littérale des textes. Mais tu sais bien aussi que dans le Pardèche, il y a quatre niveaux de lecture et que ça ne s'exclut pas. Et c'est aussi la richesse. Donc, il ne faut pas aller trop loin là-dedans. Il y a une époque où on était dans l'allégorie et la lecture de la Bible au Moyen-Âge, chez les chrétiens, ne se faisait que dans l'allégorie. Et justement, parmi les éléments que la Réforme a voulu retoquer, il y avait un retour au texte plus simple et accessible. Voilà. Encore une fois, je pense qu'on a tous raison, c'est le jugement de Salomon à qui on présentait deux plaignants, je pense que tout le monde connaît cette histoire, et Salomon écoute le premier attentivement, et quand il a fini, il dit « Vous avez raison ». On fait avancer donc le contradicteur qui défend sa propre thèse, et après l'avoir écouté aussi patiemment, Salomon dit « Vous avez aussi raison ». Et à ce moment-là, le procureur se penche en disant « Mais Seigneur, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux », et Salomon lui dit « Vous aussi, vous avez raison ». Donc, je ne dis pas que tout se vaut, je ne dis pas que tout, il faut être raisonnable aussi, et c'est pour ça que j'ai parlé des maîtres. J'ai moi-même, je vous avoue franchement qu'il a fallu que je prépare ça très vite, je n'ai pas tout inventé, loin de là, et je n'aurais pas osé me présenter devant vous, je n'ai pas l'étoffe de faire ça, et je me suis inspiré des maîtres, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lectures, j'en ai choisi, je vois que le père Desroches a trouvé encore un petit, non pas un petit sel, mais un petit alcool supplémentaire à verser dans ce... Et c'est vrai que le sens de la fête, les évangiles sont pleins de repas et pleins de... Le vin est toujours... On aurait pu choisir une moisson, c'était plus indispensable à la vie. Si on a choisi une vigne, ça n'est sûrement pas par hasard. En tout cas, merci Gérard. Et si d'autres de nos amis juifs veulent se manifester, ça nous enrichirait. Pas d'autres questions? Si? Ah bon. Une remarque, dans mon église, donc je suis catholique, à propos du jugement sévère sur les prêtres, sur les sages, on a vécu ça avec une pastorale d'encadrement qui était très prégnante, et je me souviens quand j'étais jeune, on ne nous apprenait pas la foi, on nous apprenait la morale. Enfin, c'était souvent comme ça.
Et ce que je constate maintenant, avec beaucoup de bonheur, avec ce que l'on appelle la pastorale d'engendrement, c'est ce retour à la lecture, à la lectio divina, comme on dit, partout dans notre Église. Ça montre que l'Esprit Saint travaille malgré tout dans mon Église et ça me réjouit un petit peu.
Juste, je reviens un peu en arrière et puis du coup ça rejoint aussi l'intervention précédente à propos de cette responsabilité qui pèse sur les chefs religieux ou politiques dont tu parlais, Eliane, et tu disais mais finalement c'est assez terrible comme jugement, il faut qu'ils fassent preuve de beaucoup de droiture. Et puis là vous parliez de morale, moi je dirais que je mettrais le mot plutôt humilité, c'est beaucoup d'humilité. Je crois que c'est ça, finalement. Et ça rejoint ce que disait aussi Norbert, c'est-à-dire que la responsabilité, elle ne pèse pas que sur les responsables, et nous sommes tous responsables. Et là, je dis ça parce que je suis sensibilisée de par ma confession protestante, où pour nous, vraiment, on est chacun face à son Dieu, en pleine responsabilité, face à notre vie, face à notre foi, seul face à Dieu, sans avoir besoin de qui que ce soit. Et du coup, c'est vraiment cette notion de chacun est responsable et celui qui aura une tâche plus particulière de guider une communauté, et bien celui-là est responsable comme les autres et doit faire preuve du coup de beaucoup d'humilité pour garder cette idée qu'effectivement rien ne nous appartient, tout nous est donné. Et ça, je crois que c'est très important. Merci Charlotte de ce témoignage. Je crois qu'il y a aussi l'éducation, parce que je relisais des histoires très anciennes de nos familles, dans nos familles juives, où c'est vrai, dès 5 ans, l'enfant va apprendre à lire, va apprendre tout ce qu'il y a, toute la parole de Dieu, mais aussi au sens très pratique, dans la vie de tous les jours, autour, avec la famille. Je sais, dans le milieu chrétien, c'est sans doute semblable, mais là, ça remonte tellement à la nuit des temps que c'était ainsi. Est-ce que ça existait? Est-ce que déjà se posait la question du temps d'Isaïe? J'ai la vie et cette représentation, effectivement, dans Osée aussi, c'est bien donné comme étant le peuple, comme étant l'enfant de Dieu. Bien s'occuper de la vigne, bien la tailler, bien faire tout ce qu'il faut, c'est le rôle aussi des parents, donc avec toujours de la transmission de génération en génération pour permettre justement cette responsabilité, mais avec certes beaucoup d'humilité que doivent avoir ceux qui savent un peu mieux, un peu plus. Mais la sanction, je la trouve sévère quand même, là. Mais elle est logique aussi, c'est trop une grande responsabilité. Moi, je voulais juste dire encore que les paraboles m'ont aussi fait penser au récit chassidique. C'est pas tout à fait la même chose, je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire des rabbins du XVIIIe siècle, des rabbins qui venaient des pays d'Europe centrale. Alors c'est récent, bien sûr, c'est beaucoup plus récent que la parabole elle-même ou que même ce que l'on trouve dans le Premier Testament, mais ce sont des récits, des contes, et toujours mis, et très très complexes, c'est l'humain avec Dieu, ou Dieu avec l'humain. C'est très très beau, Rabbi Nachman, notamment, a écrit énormément, et vous le trouvez d'ailleurs traduit en français, vous avez par Rabbi Senzal, vous avez des très très belles lectures et le maître de prière, c'est tout à fait ça, c'est magnifique. Alors c'est encore une autre dimension, c'est plus bien sûr dans le contexte du judaïsme, des juifs, mais on retrouve, il y a des choses qui peuvent être semblables aussi. C'est toujours pour que nous nous comportions de mieux en mieux, que nous ayons un grand sens de notre humanité. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Parce que dans la responsabilité, là, on va peut-être pouvoir rebondir avec ce que voudrait nous dire le père Barthélemy, mais est-ce qu'il y a encore des réflexions, des... Non, c'est bien. Père Barthélemy, nous allons vous passer la parole pour que justement vous nous parliez de ces personnes qui ont une certaine situation donnée, mais qui ne représentent peut-être pas aux yeux des hommes.